La fin de la paracha consacre tout un chapitre dans lequel elle décrit, elle définit les animaux qui sont cachers et ceux qui ne le sont pas. Pour les animaux terrestres, la Torah nous donne deux conditions pour qu'ils soient comestibles, pour qu'ils soient cachers. La première, c'est qu'il ait les sabots fendus. La seconde, c'est que l'animal soit un ruminant. L'animal, pour être cacher, doit avoir les deux éléments, doit remplir les deux conditions. Puis, la Torah dénombre quatre animaux qui n'ont qu'une seule des deux conditions, et pour cela, ils ne sont pas cachers. Même si ce n'est pas le sujet de notre propos aujourd'hui, il est intéressant de faire remarquer ce qui ressort de différents textes de la pensée juive, qui montrent comment ce texte est tout à fait extraordinaire, car ici, la Torah dénombre juste les quatre espèces, les quatre familles d'animaux, qui n'auraient qu'une seule des conditions, soit ils ruminent, soit ils ont les sabots fendus, mais ils n'ont pas les deux. Et ce sont ces espèces-là, et seulement elles, qui renferment qu'une seule des conditions. Il est assez intéressant de voir que, depuis le don de la Torah, nous n'ayons retrouvé d'autres espèces qui remplissent qu'une seule des conditions de cacheroute, qui s'apparente à une de ces quatre espèces, ce qui est assez extraordinaire, puisque comme donc le précise nos sages, il en ressort que seul celui qui a créé toutes les espèces de la terre pouvait affirmer d'une façon aussi claire et aussi décidée que ce sont seulement ces espèces qui sont cachères et pas d'autres. Ça c'était pour la parenthèse. Ce que nous devons ressortir aujourd'hui de ce texte donc qui nous dit seulement de ceci vous ne mangerez parmi ceux qui ruminent et parmi ceux qui ont les sabots fendus et hagamal le chameau qui m'ale gerau ou farsa et nomafris, car il rumine mais il n'a pas le sabot fendu. Plus loin, va être à Chafan, la gerboise, qui m'a la guérahou, car lui aussi rumine, mais n'a pas les sabots fendus. Va être arné, va être le lièvre, qui m'a alat guérahi, ou farsa l'orifrissa, car le lièvre est une espèce qui a les sabots fendus, mais, rumine, mais qui n'a pas les sabots fendus. Et enfin, ve et ha chazir, le porc, qui m'afrise par sa ou, ve chossa par sa, ve hu gira lo igor. Et le chazir, le porc, qui a les sabots fendus, mais par contre, ne rumine pas. C'est d'ailleurs le seul sur ces quatre espèces qui est ce caractéristique d'avoir les sabots fendus et de ne pas ruminer. Alors, il existe un midrash tout à fait intéressant qui nous laisse entendre qu'en plus de la loi de Kashrout, ici, il y a tout un symbole. Il y a un symbole, comme dans les comme à différentes occasions dans la Torah, Dieu vient montrer ici le parcours du peuple juif en exil et détermine les quatre nations dans lesquelles le peuple juif se trouvera enfermé, exilé. Et là encore, un message fort transparaît de la lecture de ce passage selon le symbole du Midrash Rabbah. Ainsi, le Midrash Rabbah affirme dans notre paracha sur ce passage qu'à différents moments de la Torah, Dieu parle de quatre éléments et il éclaire pour nos sages que ces quatre éléments sont symboles de la son symbole des quatre exils que traversera le peuple juif. Et cela depuis le début de la Torah. Ainsi, nos sages précisent qu'au moment où on nous parle de fleuves qui sortent du Gan Eden, du paradis, quatre fleuves quittent le fleuve qui sort du paradis. Ces quatre fleuves, selon nos sages, sont les quatre exils d'Israël, c'est-à-dire Babel, Mède, la Grèce et Rome. Et selon les différentes interprétations que l'on peut apporter au verset, à commencer par exemple par le premier, prenons un exemple, quelques points dans le verset qui nous donnent ces indications qui rappellent l'exil. Prenons par exemple le premier s'appelle Pishon, c'est bien Babel parce que l'affiche est s'étendre. L'exil de Babel, l'empire de Babel s'est étendu sur toutes les nations. Et le verset dit Ve'ua Sovev et Koleret Sahavila, ce fleuve a entouré toute la terre de Havila. C'est bien Nabucodonosor qui assiégea la ville de Jérusalem, qui entoura Ashircha Mazahav, là où se trouvait l'or. C'est bien la Torah qui est déterminée comme l'or. Ve'et Ve'shama Bedolar qui était Ve'even Ashoam, qui est là-bas il y avait des pierres précieuses près de ce fleuve, qui sont donc Even Ashoam. Or les vêtements des Kohanim, plutôt du Kohen Gadol, comportaient ces pierres précieuses. Donc il s'agit bien ici de Nabucodonosor qui détruisit le premier temple. Le second fleuve, Gihon, c'est Madaï, c'est Med qui a vu Aman, sortir de son peuple pour se révolter sur le peuple juif. Alors Gihon veut dire ramper, comme le serpent au début de l'histoire de la création. Ce verset qui dit justement que Gihon parcourt la terre de Kush. Or, effectivement, l'histoire de Purim prend bien lieu, mais Hodu Ve'at Kush jusqu'à Kush. Et ainsi, nous pouvons continuer et voir que chacun de ces fleuves détermine un des exils dans lesquels se trouvait Israël. Un peu plus tard dans la Torah, lorsque Dieu va sceller une alliance avec Avraham, là encore, Avraham aura une vision composée de quatre tableaux, un tableau avec des ténèbres, un tableau avec un aile, etc., avec un aigle qui apparaît en dernière position. Et là encore, le Midrash Rabbah voit les différentes phases d'obscurité que verra Avraham comme étant les quatre phases de l'exil du peuple juif. Et enfin, l'aigle qui vient sauver ou planer au-dessus de la scène, c'est le Mashiach qui vient libérer le peuple juif de ces quatre exils. Le Midrash poursuit et se penche sur notre passage dans notre parasha, et le Midrash nous dit, voici donc les quatre animaux dont parle la parasha, qui ont qu'un caractère positif et le second ne l'ont pas, et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas cachers, à commencer par le gamal, qui le chameau qui représente Babel, la gerboise qui représente Mède, le lièvre qui représente la Grèce et le porc qui représente l'exil de Rome. Et le Midrash dit quelque chose de tout à fait intéressant. Dans le symbole de l'animal qui rumine, qui fait remonter la nourriture, c'est qu'ici il s'agit d'un exil qui rumine, c'est-à-dire qui ramène un autre exil après lui. Ainsi, lui, le gamal, le chameau rumine, il apportera après la cession de cet exil, même s'il y a un retour après Babel, même s'il y a un retour sur la terre d'Israël, un autre exil était envisageable, c'était celui de Mède. Celui, comme nous l'avons dit, de la gerboise, qui elle aussi rumine, donc a apporté aussi un autre exil, celui de la Grèce. La Grèce qui, dans notre passage, représente le lièvre, qui lui aussi rumine, donc a apporté lui aussi un autre exil. L'autre exil, le dernier animal, c'est le porc. Lui a les sabots fendus. Rome a cela de particulier de se targuer d'être cultivé. Comme ce porc qui montre ses sabots fendus, qui montre ce qu'il a à l'extérieur, alors que intérieurement il n'a pas les caractères requis pour être cachère, c'est-à-dire le fait de ruminer. Il montre au loin ses sabots fendus pour dire « Moi je suis cachère, moi je suis quelqu'un de cultivé, je suis quelqu'un de... d'avancer, quelqu'un de moderne, quelqu'un de juste, quelqu'un de bon. Nous avons un Sénat, nous avons fait des lois, nous avons fait ci, mais pourtant, nous connaissons bien l'exil romain qui n'était qu'un exil, qu'un caractère, qu'une façade et plein d'hypocrisie, et c'est le caractère de Rome. Mais ce que nos sages rapportent ici de plus intéressant encore, c'est que cet animal, lui, ne rumine pas. C'est-à-dire que cet exil n'apportera pas d'autres exils après lui. C'est un exil auquel ne succédera pas d'exil, car c'est la Géoula éternelle, qui succédera enfin l'exil romain dans lequel nous nous trouvons, voilà, depuis 2000 ans. Et cela est déjà prédit dans le livre de Obadia, ce prophète qui nous dit Ve'alu Moshim be'Artzion lishpot et ha'aretz va'ita la'shem ha'melucha, les libérateurs monteront sur la montagne de Tzion pour juger enfin le monde de Esav, sachant que Rome, justement, est le descendant de Esav, va'ita la'shem ha'melucha, et la royauté appartiendra à l'Éternel pour l'éternité. Yehi Adonai nous Moreinu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Ve'ed.